Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nous sommes vendredi, c'est donc la dernière émission de la semaine et on va bien en profiter avec tout d'abord autour de la table Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
On est également avec l'ancienne avocate et désormais présidente de l'association Femmes et Libres, Yael Mellul. Bonjour Yael.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Le chef du service culture de Valeurs Actuelles, Laurent Vandrieux. Bonjour Laurent.
Salut tout le monde.
Et le journaliste et écrivain Fred Hermel. Bonjour Fred.
Bonjour Estelle. Ça va ma chemise cette fois-ci?
Votre chemise est parfaite.
Je fais attention.
On sent qu'on est un peu en Friday wear déjà. On est déjà un peu en week-end. Écoutez, c'est parfait. Allez, au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, 5,6% de déficit public pour la France. Faut-il faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, même de manière symbolique? On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, les athlètes russes et biélorusses interdits de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce logique ou choquant? À 13h, c'est la semaine de la francophonie et pourtant, on utilise de plus en plus d'anglicisme dans notre quotidien. La langue française est-elle en danger? À 14h, après Camailleux, Gap France ou encore Koukaï, ce sont du pareil au même Sergent Major et 26 Galeries Lafayette en province qui sont touchées par la crise. Est-ce la fin des boutiques de centre-ville? Et puis on joue, Rémi, aujourd'hui sur RMC.
C'est le retour, Estelle.
Le retour de quoi?
Le retour du coffre
RMC.
Et attention, nous vous offrons jusqu'à combien, à ton avis?
J'ai déjà fait gagner 50 000.
50 000 euros. Et ben voilà. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Dès que vous entendrez ce signal, vous connaissez le principe. Il peut tomber à tout moment ce signal. Vous aurez alors 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vendredi prochain, nous serons le 29 mars. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Qui est déjà une très belle somme. Et à ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous conservez ces 2500 euros, soit vous acceptez d'y renoncer pour ouvrir le coffre RMC. À l'intérieur, de toute façon, vous serez gagnant puisqu'il y aura soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan, en France, pour 6 personnes, Tikayan, soit la somme de 50 000 euros. Coffre par SMS au 732-16.
On peut jouer, hein.
Non, c'est Estelle Midi.
Milicis sur RMC, on va démarrer Estelle Midi avec le chiffre du jour, 5,6% de notre PIB, c'est le montant du déficit public de la France, c'est très au-dessus des prédictions de Bruno Le Maire qui tablait plutôt sur 4,9, on l'a bien compris, tout le monde va devoir se serrer la ceinture. Aujourd'hui, Rémi, on sait, moins d'un Français sur deux paye l'impôt sur le revenu. Rémi, si tout le monde était imposé sur le revenu, même de manière symbolique, combien ça rapporterait à l'État?
Alors tout dépend du système qui serait mis en place, mais imaginons un scénario. Celui où chaque foyer fiscal français paierait au minimum, une somme de 10 euros par mois au titre de l'impôt sur le revenu. Avec 40 millions de foyers fiscaux en France sur un an, cela représenterait une somme de près de 5 milliards d'euros pour les finances publiques. Reste que si l'impôt universel devait voir le jour, il serait sans aucun doute progressif en fonction des revenus avec la création de nouvelles tranches d'imposition. Le débat n'est pas nouveau. Interrogé sur le sujet en mai dernier dans les grandes gueules sur RMC, un certain Gabriel Attal, il était alors ministre des Comptes Publics, s'était dit philosophiquement favorable à cette idée, avec quelques réserves, notamment sur ce que rapporterait effectivement un impôt universel. Parce que si le fisc devait aller chercher 1 euro d'impôt, voire même 10, auprès d'un contribuable qui n'aurait pas payé, forcément, ça pourrait coûter
plus cher.
C'est
à la source maintenant.
Oui, mais ça pourrait. Oui, mais si il y a une mauvaise déclaration ou autre, ça pourrait coûter plus cher aux finances publiques d'aller chercher ces 1 euro ou ces 10 euros que ce que ça ne rapporterait. Et puis, il faut noter aussi que Jean-Luc Mélenchon, tiens, c'est lui aussi déjà, à de nombreuses reprises, déclaré favorable à un impôt universel parce que, d'après lui, il y a une dignité civique à contribuer à l'effort collectif.
Alors, faut-il faire payer l'impôt sur le revenu à tout le monde, même de manière symbolique? Fred Hermel.
Eh ben, je suis très étonné de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Je suis totalement d'accord avec lui.
Bien la première fois.
Oui, mais vraiment parce que je pense vraiment que, alors, il y a deux parties dans mon opinion. La première, c'est que oui, quand on paye de l'impôt, on est un peu plus citoyen qu'un autre. Donc, il y a une forme de dignité.
Tout le monde paye un impôt parce qu'il y a la TVA.
Bien sûr. Mais c'est un impôt caché, en fait.
Oui. On sait pas.
Bien sûr, bien entendu. Mais quand on participe à l'effort collectif, on est encore plus légitime pour recevoir l'aide de l'effort des autres, en fait. Voilà, c'est, il y a quelque chose de beau, de fait d'être un citoyen quand on participe comme ça. Alors, et même si ce n'était qu'un euro, même si ce n'était que symbolique, moi je pense que quand on est déclaré non imposable, j'ai l'impression qu'on est un petit peu mis au banc de la société. Voilà, donc ça pour le côté dignité, et puis après pour les autres, pour ceux qui payent des impôts, se dire bah voilà, non, l'effort collectif, tout le monde doit y participer. Et moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Et les 5 milliards, pourquoi pas, 5 milliards c'est déjà ça de prix, mais pour moi l'impôt universel comme ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de symbole. Et c'est plus facile pour les gens qui payent des impôts, qui en payent beaucoup, parce qu'il y a un consentement à l'impôt qui est de moins en moins accepté, moins en moins fort chez les gens. Je pense que le fait que tout le monde en paye, ça va faire du bien à tout le monde.
Yael, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que c'est important de sensibiliser finalement tout le monde à l'impôt? Parce que voilà, aujourd'hui, c'est 44% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que 56% ne le payent pas. Plus de la moitié de la population, c'est vrai que ça fait un peu une France à deux vitesses quand même.
Ben non, parce qu'en réalité, le fondement même de la fiscalité en France, c'est un principe de justice fiscale, un principe d'égalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on paye en fonction de ses facultés. C'est ça le principe même de la fiscalité, c'est le principe de la solidarité nationale. Et c'est inscrit d'ailleurs dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, chacun contribue en fonction de ses revenus. Et aujourd'hui, le problème qui se pose en France, c'est que les inégalités sociales se creusent entre les plus riches et les plus pauvres. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une paupérisation des plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. Mmh. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un déficit public qui est absolument explosif. Donc, la situation économique...
Vous avez aussi de plus en plus d'aide ?
Va être catastrophique. Donc, comment répondre à ça? À situation exceptionnelle, eh ben, il faut avoir des réactions exceptionnelles. Et aujourd'hui, ce matin même, Yael Braun-Pivet, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle n'était pas opposée, et c'est la première fois, à ce qu'il y ait une taxation sur les super profits. Ouais. Donc, aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher...
Les super profits, c'est les entreprises, c'est pas les particuliers.
Oui. Mais ça ramène de l'argent.
Bien sûr, mais c'est, voilà, c'est un autre débat, on peut faire les deux. Tu peux très bien taxer les super profits et aussi dire à tout le monde.
Oui, mais.
Dire que c'est pas tout à fait normal que ce soit, même si. Tu sais, aujourd'hui, il y a les tranches d'impôts. C'est-à-dire que parfois, à 10 euros près, tu payes l'impôt ou tu ne le payes pas.
Oui.
Il y a une inégalité flagrante. C'est-à-dire que tu le payes, je dis n'importe quoi, mais à 1400 euros, tu ne payes pas, à 1410, tu payes. Bon. Donc, il y a quand même une énorme injustice. Et en même temps, je pense qu'effectivement, tu n'as pas une très grande différence entre gagner 1400 ou gagner 1410. Et si tout le monde mettait 10 euros. Bien sûr qu'un euro, c'est plus important pour quelqu'un qui est à la rue que pour Bernard Arnault. Je l'entends.
Oui, mais il faut bien qu'il y ait un barème, Estelle, à un moment donné.
Mais tu peux mettre un forfait universel. Mais fait que tout le monde paierait 1 à 10 euros.
Mais tout le monde paye des impôts.
Mais tu dois payer la TVA, mais pas l'impôt sur le revenu.
Oui, mais tu payes, tu vas acheter une baguette, tu payes un impôt.
Oui, mais
tu
n'as pas conscience.
On est déjà.
Mais
bien sûr que
tu
as conscience. Mais évidemment que
tu
as conscience. Quand tu payes ta TVA, bien sûr que tu as conscience. Quand tu payes ta CSG, bien sûr que tu as conscience. La France est déjà le pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Oui. Pourquoi on va aller taper sur ceux qui en ont le moins?
Attends, c'est 56% qui en ont le moins. Voilà. Parce que tu dis, c'est les plus pauvres, les plus riches. Excuse-moi, mais c'est 56% des Français qui ne payent pas d'impôts.
Mais parce
que c'est 56... pas des gens dans l'extrême pauvreté dans ces 56%.
Bah écoute, aujourd'hui, quand tu gagnes 1400 euros, on ne peut pas dire que tu fasses partie des plus riches. Hein.
C'est pas du tout ce qu'il a dit. Laurent, est-ce que vous pensez que le symbole est important et même si ça rapporte pas, je veux dire, 45 milliards, bah c'est quand même important de faire payer tout le monde.
Non, moi je suis contre parce que d'abord c'est un symbole qui a un coût, c'est-à-dire que même si les gens payent, eh ben collecter des impôts, ça représente de l'argent, donc il faut qu'il y ait une proportionnalité entre ce qu'on va ramasser.
Aujourd'hui, que c'est l'impôt à la source.
Hein. Oui, mais quand même, il faut quand même des gens pour faire fonctionner cette machine, vérifier les déclarations et tout ça. Ensuite, parce que effectivement, moi je pense que malgré tout le monde a conscience de payer des impôts. Quand vous allez à la pompe chercher votre essence, bah vous avez conscience que vous payez la TVA, vous payez l'essence, vous payez des impôts chez le notaire en permanence, dès que vous faites un acte notarié, vous payez des droits de succession, les impôts, tout le monde y est soumis un jour ou l'autre. Ensuite, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie croissante de la population française dont le pouvoir d'achat est sous perfusion. C'est-à-dire qu'à coup de chèque ceci et bon cela, on subventionne le pouvoir d'achat de beaucoup de Français pour affronter l'inflation. Donc, il y aurait une absurdité à leur reprendre d'une main ce qu'on leur donne de l'autre. Ça, c'est toujours des systèmes qui sont à éviter. Ensuite, tertiaux, pour moi c'est le point le plus important, c'est-à-dire que la solution du déficit de l'État, elle n'est pas dans l'augmentation des impôts, elle est dans la maîtrise de la dépense. Les impôts, c'est une addiction, c'est-à-dire que plus vous collectez d'argent par l'impôt, plus vous avez tendance à en dépenser, et en fait l'État fonctionne à cette addiction-là et n'a jamais le réflexe de chercher à maîtriser ses dépenses. Dès qu'il y a un problème de déficit, on dit paf, impôt, et jamais maîtriser ses... Et donc il faut sortir impérativement de cette logique-là. Il faut que l'État apprenne à différencier les dépenses utiles, nécessaires, importantes des dépenses superflues, et se discipline. Et tant que l'État ne sera pas discipliné, je refuse qu'on parle d'augmentation ou de généralisation de l'impôt.
Ouais, moi ce qui me gêne, c'est quand même que les gens qui sont sur la première tranche d'impôt, donc les plus modestes qui payent l'impôt sur le revenu, eux n'ont jamais le droit à rien. C'est-à-dire qu'ils payent de l'impôt sur le revenu, ils n'ont jamais le droit à des aides, ils n'ont jamais le droit au chèque énergie, au chèque électricité, etc. Et moi je trouve qu'il y a une petite injustice là-dedans quand même. Et je parle encore une fois, je ne parle pas pour les tranches au-dessus, mais la première tranche d'impôt, c'est vraiment second rien, quoi. Alors c'est la double, triple, quadruple peine. Ils n'ont rien. En fait, ils ont juste le droit de payer. Et Dieu sait qu'ils gagnent pas beaucoup. Ils ont juste le droit de payer pour tout le monde. Et quelque part, ils ne touchent rien.
Moi, je suis assez contre les chèques ceci, les chèques cela.
Ouais, mais moi, je trouve que sur cette première tranche d'impôt, il y a quand même un problème. Ou alors, faudrait faire plus de tranches, que ce soit beaucoup plus progressif. Parce que là, il y a quand même une forte injustice. On est avec Johan, qui nous appelle d'Andaille, dans les Pyrénées-Atlantiques, et qui est dessinateur en bureau d'études. Bonjour, Johan.
Oui, bonjour, Estelle Denis.
Et merci d'être avec nous. Johan, est-ce que vous payez l'impôt sur le revenu?
Non, depuis 2 ans. Nous ne le payons plus. On le payait auparavant. Or, voilà, c'était compliqué quand même de le payer.
Bien sûr. Mais normal, vous étiez en première tranche d'impôt, donc?
Exactement. C'est
ben
ça.
Oui. Ben voilà.
Donc, voilà, depuis 2 ans, nous ne payons plus, tout simplement parce que nous sommes mariés, nous avons 2 filles à charge, nous avons un 3e enfant qui est en cours de route. Donc, voilà, nous ne payons plus. Par contre, nous sommes propriétaires, nous payons la taxe foncière. Voilà, et nous sommes mis un peu, voilà, nous sommes même pas un peu mis à genoux, mais nous sommes vraiment bien mis à genoux par... Les impôts sur le revenu, que ça soit sur la taxe foncière aussi.
Et ouais, donc c'est pas l'impôt sur le revenu, parce que vous ne le payez plus, c'est la taxe foncière, oui, en fait.
Exactement. Mais aussi l'impôt sur le revenu, parce que c'est vrai que nous le payons auparavant, et c'est vrai que le fait de ne plus l'avoir, ça nous a fait quand même bien souffler. Or, même avec cela, nous en sortons pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué, et je comprends tout à fait. La classe moyenne aujourd'hui n'y arrive absolument plus.
Exactement.
Que ça soit en tant que locataire, parce que c'est un coût avec la location qui augmente d'année en année, et en tant que propriétaire. Et aujourd'hui, nous n'avons droit à aucune aide. Et aujourd'hui, notre futur, c'est quoi? C'est, en fait, on va devoir vendre notre bien parce que nous n'y arrivons plus. On a liquidé tout notre argent de côté, tout simplement pour subvenir aux besoins de notre famille et aux besoins de la maison, parce que la maison, c'est un investissement aussi, hein.
Tout à fait.
Des coûts matériels, des coûts d'aménagement, voilà, d'entretien. Donc c'est très compliqué, et sans aide, on n'y arrive plus. Et c'est pour ça que malheureusement, à contre-cœur, pourtant c'était avec cœur qu'on avait acheté cette maison pour le futur, hein, pour nos enfants et tout ça.
Vous êtes obligé de vendre.
On va devoir revendre la maison et redevenir locataire. Et puis derrière.
Donc vous n'aurez plus la taxe foncière, mais Johan, est-ce que quand même.
Je préfère payer un impôt sur le revenu que payer la taxe foncière.
C'est ce que j'avais dit, parce que la taxe foncière, c'est aussi particulièrement injuste, que c'est que les propriétaires qui la payent.
Johan a dit quelque chose de. Johan a dit quelque chose d'important. Il a dit on a cessé de le payer, l'impôt, parce qu'on s'est marié et qu'on a eu deux filles. Effectivement, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu en France? C'est parce qu'il y a un truc formidable qui s'appelle le quotient familial, qui est la base de notre politique familiale, qui encourage les gens qui veulent avoir des enfants. Et donc ça, c'est très important. Et si on supprime ça, c'est encore une catastrophe de plus pour la natalité.
Johan, est-ce que vous seriez prêt quand même, et j'entends vos difficultés, hein, Johan, mais à payer ne serait-ce que peut-être 10 euros symboliquement d'impôt sur le revenu chaque mois.
Ça serait totalement normal. Mais à juste titre que tout le monde paie, forcément, pas que la classe moyenne.
Et c'est ça, bien sûr.
Nous sommes on a nos propres problèmes financiers.
D'accord.
Je sais qu'il y a d'autres familles qui sont bien
pires.
On va dire bien pires. Mais je veux dire que ça soit à chaque échelle. Que multinationales,
tout le monde doit payer.
Tout le monde paye et que voilà, mais vraiment que le système fasse que ce soit juste et équilibré pour tout le monde, en fait.
Merci beaucoup, Johan, en tout cas pour merci pour ce point de vue. Et puis bon week-end dans les Pyrénées-Atlantiques et cette jolie ville d'Andaille. Rémi Barré, on a plein de messages sur la Pierre MC.
Greg nous dit salut équipe perso, je suis contre. Le problème n'est pas qu'un Français sur deux ne paye pas d'impôts, c'est qu'un sur deux ne gagne pas assez pour en payer. Et puis il y a ce message de Christophe également qui nous dit pourquoi taper sur ceux qui sont aidés. C'est tout simple pour qu'ils se sentent concernés et surtout pour qu'ils n'osent pas imaginer que c'est gratuit. Ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paie.
Oui, c'est exactement la phrase de Bruno Le Maire il y a quelques jours qui a prôné la fin du tout gratuit tout le temps et pour tout le monde. Et il a dit ce qui est gratuit se paye forcément un mois à un autre par quelqu'un. Éric Heyer est notre invité sur ce débat. Il est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors bien sûr, on parle de ce déficit abyssal de la France. Est-ce que vous seriez favorable au fait que tous les Français payent un impôt sur le revenu, quelle que soit, je veux dire, sa situation, mais ne serait-ce qu'un impôt symbolique?
Alors, comment répondre à cette question? C'est-à-dire que globalement, l'impôt sur le revenu, il y a deux types d'impôts sur le revenu. Vous avez l'impôt dont vous parlez depuis tout à l'heure, l'IRPP, c'est-à-dire ce que vous déclarez, etc. Et vous avez la CSG. Mais la CSG, c'est un impôt sur le revenu. Dès que vous gagnez 1 euro en France, vous payez un impôt qui s'appelle la CSG. Donc, du coup, tout le monde paye de l'impôt sur le revenu. Vous voyez, c'est l'IRPP, ce fameux impôt, où effectivement, il n'y aurait que la moitié des Français qui le payent. Donc, vous voyez, le problème, c'est que cette CSG, on se rend pas compte qu'on paye un impôt parce que c'est souvent prélevé à la source, c'est complètement même prélevé à la source, et donc c'est un peu moins visible. Mais donc il faut répéter que tout le monde paye un impôt sur le revenu, quel que soit le revenu que vous avez, que ce soit du salaire, que ce soit un revenu de votre capital, que ce soit une retraite, n'importe quel revenu, vous êtes
même une allocation, donc, même une aide.
Ah, donc tout le monde paye.
Le RSA est soumis à la CSG?
Alors, est-ce que le RSA, c'est une bonne question, j'ai peur de dire une bêtise.
Peut-être d'accord, n'en parlons plus.
Au RSA après, d'accord. Mais en gros, ça, globalement, tout le monde paye à l'impôt sur le revenu, d'accord. Et sauf que l'IRPP, non. Et alors, l'écart entre l'IRPP et la CSG, c'est qu'il y en a un qui est progressif, l'IRPP. Plus vous gagnez, plus le taux augmente, d'accord. Et même, il y a la moitié qui ne paye zéro, en dessous de 10 000 euros, vous n'en payez pas. Donc, il y a beaucoup d'exemptions. Et puis, il y a le quotient familial, etc. C'est familialisé, alors que ce n'est pas le cas pour la CSG. Et la CSG est un taux plat, etc. Alors, peut-être qu'il y avait une proposition, c'était de fusionner les deux. Si vous fusionnez la CSG et l'IRPP, là, on aurait plus de débat. On verrait que tout le monde paye un impôt, d'accord. Et vous pouvez rendre, du coup, cet impôt aussi progressif. Et donc c'est l'avantage de la CSG, c'est que l'assiette est très large. Et donc ça, c'est, on aime bien ça, un impôt avec une assiette très large.
Ben oui.
Obligé de mettre un gros taux pour avoir des recettes. Et ça dépend un tout petit peu moins du travail. Donc ça passe mieux les crises. Voilà. Bon, mais sauf que bon, voilà, on a envie de garder les deux parce que globalement, ça va pas au même endroit dans les caisses. La CSG, ça finance aussi une partie de notre modèle social parce que ça finance une partie de la maladie notamment. Mais je pense que dans la symbolique, ça serait mieux parce que comme ça, on indiquerait bien que tout le monde paye de la CSG, si on peut dire, mais c'est déjà le cas. Donc je pense que pour la symbolique, c'est bien effectivement de dire tout le monde y contribue à due proportion de son revenu.
Évidemment.
Et ça fait un geste citoyen.
J'ai eu le temps de vérifier, le RSA n'est pas soumis à la CSG.
Voilà. Bon, okay. Merci.
De rien, mais merci Éric Heyer, donc plutôt favorable effectivement à ce que tout le monde paye, ne serait-ce qu'un impôt symbolique, même si tout le monde le paye avec la CSG, enfin presque tout le monde, on vient de le voir avec Rémi. Sandrine est avec nous et elle est contrôleuse des impôts à Nanterre. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Alors en tant que professionnelle des impôts justement, est-ce que ce serait possible et est-ce que ce serait souhaitable cet impôt pour tout le monde?
Alors, en tant que professionnelle, ça change pas grand-chose. Moi, c'est plutôt en tant que citoyenne que j'ai une opinion. J'ai envie de vous dire que non, moi, je suis absolument contre, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de personnes. Alors là, pour le coup, je peux dire à titre professionnel, j'en vois au quotidien, pour qui 10 euros, c'est important. Merci. Donc, 10 euros, enfin, puisqu'on a donné l'exemple de 10 euros, donc 10 euros, c'est très, très important. Oui, il y a un moyen mécanique très simple de faire payer des impôts à tout le monde. C'est de payer tout le monde a un salaire décent. Si tout le monde a un salaire décent, il se retrouve imposable. Moi, j'ai des parents qui étaient ouvriers toute leur vie. J'ai 3 frères et sœurs, 4 enfants. Ils n'ont jamais été imposés. Donc, mon père, donc, c'était un syndicaliste, CGT. Donc, inutile de vous dire que, évidemment, oui, les idées à gauche, c'était prédominant à la maison.
Je l'ai.
Mais il disait toujours, moi, j'adorerais payer des impôts quand il entendait des gens s'en plaindre.
Mais je ne peux pas.
Voilà.
Oui, oui, après, moi j'entends très peu de gens se plaindre de l'impôt sur le revenu. En fait, ce qui gêne tout le monde, c'est l'impôt sur le revenu, plus la taxe foncière, plus ceci, plus cela. On entend assez peu de gens se plaindre de payer beaucoup d'impôts parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est surtout l'amoncellement, voilà, qui gêne, je pense aujourd'hui. En tout cas, Sandrine, vous êtes plutôt favorable à ce qui est des plus hauts salaires et ce qui permettrait effectivement à tout le monde de payer les impôts. Oui, effectivement, ce serait aussi une solution. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir été avec nous. On a Achour également en ligne de Fleury-Mérogis dans l'Essonne et qui est agent de la fonction publique. Bonjour Achour.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Achour, est-ce que vous payez l'impôt sur le revenu ?
Je le paye.
D'accord.
Je le paye, voilà. Et puis ça, tous les ans, je suis augmenté. Voilà, oui. Donc je gère mon budget selon mes augmentations, tout ça. Je suis propriétaire.
D'accord.
Seul, je paye une taxe foncière.
Bien sûr.
Je paye mon loyer. Donc depuis que j'ai propriétaire, je ne pars plus en vacances, je ne fais plus rien du tout, voilà. Oui. Par contre, il y a des gens qui ne payent pas de... Si on prend le nombre...
On est 44% à payer les impôts sur le revenu. Sur
voilà,
le revenu.
Donc on est 67 millions. Alors revenons au sujet principal, dans le sens où qu'on est 67 millions de Français, plus de la moitié ne paye pas d'impôts. Maintenant, on est en déficit. Moi, j'essaie de rester simple, raisonner. Un euro par Français, je dirais. Un euro, quand on voit qu'il y en a qui sont au chômage, ils arrivent à acheter du Nutella, ils ont des Nike aux pieds, ils ont des iPhones.
Oui, enfin, du Nutella, c'est bon, pas le prix là, que ça coûte, vous voyez.
Non, mais voilà, on est capable de mettre un euro par Français. Un euro.
Oui.
Multiplié par le nombre de Français qui ne payent pas d'impôts, multiplié par le nombre de mois et d'années et dans l'année. Faites le calcul, combien que ça peut revenir sur un quinquennat. Monsieur le Président, vous avez réussi à faire gagner à l'État pour les Français. Je sais pas combien de
bah, on avait calculé, voilà, avec Rémi, grosso modo, si chaque foyer fiscal payait 10 euros, un impôt forfaitaire de 10 euros par mois, à la fin de l'année, vous avez 5 milliards, donc effectivement.
5 milliards, c'est voilà. De combien, faisons le calcul?
Oh, bah là, ça se compte en centaines.
Il en reste un bon millier de milliards.
Oui, mais en tout cas, voilà, vous êtes favorable aussi à l'impôt pour tous. Merci beaucoup, Achour, d'avoir été avec nous. On termine avec des messages et le résultat de cette consultation sur Twitter.
J'ai ce message d'Alex qui nous dit « Moi, j'ai été au RSA quelques années après mon divorce. Même s'il s'agit de survivre et non de profiter d'un système et que c'était dur, oui, j'aurais aimé payer une toute petite somme pour me sentir faire partie de la société et ne plus être traité d'assisté à longueur d'émission par les Français, les politiques et certains chroniqueurs. »
Je sais pas qui. Je vois pas.
Je vois pas à quoi il fait référence.
Non, mais Fred parlait du fait aussi de l'envie de dire je paye des impôts, je participe à la vie sociale et exactement. C'est aussi important. Alors, tout le monde doit-il payer l'impôt sur le revenu, même symboliquement? C'était notre question sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Oui. Et c'est une très forte majorité qui se prononce en faveur de cette option, cette possibilité. Oui, pour 68% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, on parlera du CIO, le Comité International Olympique, qui interdit aux athlètes russes et biélorusses de participer à la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce que c'est logique ou choquant? On en débat avec vous au 32-16.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Yael Mellul, Laurent Dandrieux et Fred Hermel. Et tout de suite, on va s'intéresser à la décision du jour et c'est celle du CIO, le Comité International Olympique, qui a interdit aux athlètes russes et biélorusses de défiler lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Une interdiction qui scandalise la Russie. La Russie qui juge cette décision injuste et discriminatoire, Rémi.
Oui, aussitôt la décision du CIO connue, la Russie a même accusé le Comité International Olympique de basculer dans le racisme et le néonazisme. De son côté, le CIO reproche à Moscou de politiser le sport, alors même que le Kremlin envisage d'organiser une compétition concurrente des JO, baptisée les Jeux de l'amitié. Reste que les athlètes russes et biélorusses, puisque la Biélorussie soutient activement la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, ne paraderont pas sur la scène pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils participeront sous bannière neutre aux compétitions. Le drapeau sera vert, sans hymne national en cas de médaille. Médailles qui d'ailleurs ne seront pas comptabilisées dans le tableau final. Des athlètes russes et biélorusses, peu nombreux pour les JO de Paris, hein, sur 6000 sportifs en lice pour les compétitions, seuls 19 athlètes russes ou biélorusses sont qualifiés pour le moment. Il devrait y en avoir d'autres, mais enfin, grosso modo, on devrait tourner autour d'une trentaine ou quarantaine d'athlètes russes ou biélorusses.
Et petite info complémentaire, en fait, les athlètes russes et biélorusses ne pourront pas défiler lors de la cérémonie des JO, mais ils sont quand même invités à la cérémonie, donc ils pourront regarder leurs petits camarades depuis les tribunes. Alors, on ne sait pas s'ils sont en selfies. A, B ou C, mais en tout cas, ils pourront regarder les gens défiler. La Russie interdite de cérémonie d'ouverture des JO, est-ce logique ou choquant, Laurent Dandrieu?
Moi, je trouve ça absolument grotesque et même Orwell. Lien, c'est-à-dire qu'on est dans on établit une espèce de réalité parallèle où les athlètes russes et biélorusses sont là sans être là. Ils participent, mais ils participent pas. On les invisibilise. Je trouve que
les inviter, quoi, c'est ça que vous dites.
Pardon?
Il fallait pas les prendre, en fait.
Oui, alors, si on veut effectivement ne pas permettre à la Russie de se glorifier des médailles, la solution, effectivement, c'est de pas les faire venir. Le problème, c'est comme ça me paraît assez contraire à la charte olympique, qui, par ailleurs, je l'ai lu ce matin, dit que le comité international olympique s'interdit toute discrimination envers les personnes, mais aussi envers les États, notamment pour des raisons politiques.
Oui, alors l'Allemagne n'a pas participé aux Jeux de 48, par exemple.
Oui, elle a organisé ceux de 36, donc bon.
Oui,
ce que je veux dire, c'est que
pas tout
pour
à
moi,
fait dans le même contexte politique.
Non, enfin, déjà, en 48, ils n'ont pas fait les Jeux.
En plus, mais moi, je trouve que ça me paraît relativement contradictoire avec l'esprit olympique, qui est de dire, le temps des Jeux, on met la politique de côté, et puis. C'est toujours pareil.
Comment tu fais pour faire défiler des athlètes russes avec des athlètes ukrainiens? On les met loin.
Mais pourquoi la Chine, par exemple, on trouve que c'est formidable et que c'est un pays qui pose pas de problème?
Elle est en guerre, la Chine.
Elle est en guerre contre une partie de sa population, par exemple. Un pays qui, en termes de répression politique, est pas mal.
Elle n'est officiellement pas en guerre. Aujourd'hui, la Russie est officiellement en guerre contre l'Ukraine.
On ne sait pas sur quels critères. Il y a des tas de pays en guerre qui ont participé aux Jeux. Au JO avant, dans les décennies précédentes. Je trouve que c'est absurde. Enfin,
sauf que la Russie est poursuivie par les instances internationales pour crimes de guerre.
Oui,
notamment.
Mais je pense que là encore, c'est pas le premier pays qui a participé au JO qui c'est le cas.
Yael Mellul, est-ce qu'il fallait tout bonnement interdire finalement aux athlètes russes et biélorusses de participer aux Jeux Olympiques, ou alors dès lors qu'ils sont là ou qu'on les autorise à participer, les faire participer pleinement?
Oui, alors à ce moment-là, il fallait être jusqu'au boutiste. Voilà, aller jusqu'au bout de la logique et ne pas du tout les inviter, sauf que ça viole complètement le principe même des Jeux Olympiques, qui se doit d'être dans une neutralité politique. Là, on se retrouve à ce que les Jeux Olympiques soient quelque part une continuation de la guerre qui sévit aujourd'hui en Ukraine. Est-ce que c'est véritablement le rôle des Jeux Olympiques? Je ne le crois pas. En plus,
T'as eu des pays interdits de compétition internationale.
Oui, mais est-ce que les sportifs russes sont responsables de la guerre que...
Non, c'est pour ça qu'ils peuvent venir.
Est-ce que les sportifs peuvent venir? Parce qu'en 48, les sportifs allemands étaient responsables. Ils n'étaient pas tous des nazis, tu vois.
Raison n'est pas raison. Enfin, je veux dire. En 48, on sort d'un régime nazi qui a exterminé des millions de juifs, des gitans.
Oui, mais les athlètes représentent leur pays.
On peut pas comparer, la situation de 48 avec la situation actuelle, c'est pas possible. Et aujourd'hui, les sportifs russes sont présents. Qu'est-ce qui va se passer s'ils gagnent des médailles? Qu'est-ce qui va se passer si
des médailles, tu as un hymne neutre.
Voilà,
un hymne neutre.
Ça
n'a pas de drapeau.
Sens,
et les médailles ne sont pas comptabilisées au tableau des médailles.
Ça n'a aucun sens. En plus, c'est extrêmement humiliant pour ces sportifs. Moi, je serai à la place des sportifs, je ne viendrai pas. Voilà.
Ça, c'est aussi une solution.
De toute façon, je pense que c'est ce vers quoi on se dirige. Je pense qu'à la fin des fins, si ça continue comme ça, la Russie
va décider d'envoyer personne. Quand il y a des sportifs qui refusent, par exemple, de serrer la main de sportifs israéliens...
Ou qui refusent même de combattre. Dans le judo, ça s'est vu.
Où est le sport là-dedans? Voilà, où est le sport? On est dans la même logique.
Mais normalement, en fait, on va dire allez, le CIO, c'est un peu le gendarme des Jeux Olympiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu voilà, c'est eux qui décident. Donc, à un moment, il faut bien qu'il y ait une instance. Donc, c'est à eux de régler ces problèmes. Là, ils disent, tout simplement, il n'y aura pas de défilé.
Oui, mais et c'est vrai que,
si tu mettais, par exemple, des athlètes russes, excuse-moi, qui défilent avec le drapeau russe, moi, je comprends que ça puisse choquer. Je suis désolée. Alors là, effectivement, ils avaient un drapeau neutre. Mais bon, quel est le symbole de faire défiler quelqu'un avec un drapeau neutre? Mais après, je suis d'accord avec toi, dans ce cas, fallait pas les inviter, dire. Voilà. Et ben voilà, pas de JO pour les athlètes russes.
Absolument.
Fred Hermel.
Ben, dans ce cas-là, il faut pas inviter l'Iran non plus, quoi. Parce que, puisqu'on est dans l'actualité, l'Iran est le financeur des terroristes qui ont fait le pogrom
du 7
octobre. Non, mais le 7 octobre, on sait que l'Iran est derrière. Voilà.
Mais l'Iran n'est pas en guerre.
Le Qatar. Non, mais
l'Iran n'est pas en guerre.
Mais dans ce cas-là, la Chine et Taïwan. Voilà, ils vont défiler comment les Taïwanais qui sont menacés par les Chinois.
Et puis,
ces décisions-là, elles ne sont jamais bonnes, en fait.
Rappelons quand même
En vrai, il n'y a pas de bonne décision.
Il n'y a pas de bonne décision.
Rappelons quand même que les Jeux Olympiques d'été de 1980 se sont tenus en Russie. Ils venaient d'envahir l'Afghanistan. Donc, par définition, ils étaient un peu en guerre à ce moment-là.
Alors, les Américains ne sont pas allés.
Il y a eu beaucoup de pays qui ont boycotté, du coup. Il y a eu beaucoup de pays, je vois, une cinquantaine de pays n'y sont pas allés. Mais le Comité international olympique n'avait pas dit à ce moment-là, on n'ira pas en Russie.
Alors, on a Mehdi en ligne, qui est ingénieur informatique. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Et Mehdi voulait réagir sur ce sujet. Allez-y.
Oui. Bah, écoutez, moi, personnellement, je trouve ça choquant. Parce que, en fait, les JO, c'est l'essence même du sport. En fait, on devrait pas mélanger le sport et la politique. Pour moi, en fait, on n'a pas à se dire, tel pays, on le refuse parce que, ils pensent pas comme nous. Parce que si on va par là, on va interdire, on pourrait aussi interdire d'autres délégations. Pourquoi je suis pas pour non plus. Je suis pas pour qu'on interdise d'autres délégations. Mais si on se prononce pour un, en fait, ça la fout mal, quoi. Pourquoi on se prononcerait pas pour l'autre? Pour d'autres critères. Et puis les JO, surtout en ce moment, c'est peut-être la seule occasion pour faire table rase du passé et se dire le temps d'un instant, pendant 15 jours, on va prendre pour nous et on va célébrer le sport. Voilà, pour moi ça me semble logique, quoi.
Donc vous dites, Mehdi, en fait, ils auraient dû venir les athlètes russes sous leur bannière russe et faire, oui. Je vais pas dire comme si de rien n'était, mais un peu quand même.
Alors, faire comme si de rien n'était, c'est ce que vont faire certainement les athlètes israéliens également. Comme si de rien n'était, c'est ce que vont faire plein de pays qui, chez eux, ont soit des guerres, soit des problèmes sociaux. Enfin, ça, c'est dans tous les pays. Là, on se prononce volontairement sur la délégation russe et celle de Biélorussie. Et je trouve ça honteux. Et en plus, quand Madame Hidalgo dit qu'il faut pas leur serrer la main, elle a quand même dit ça. On dépasse même le cadre de la politesse. Donc là, on est hors sol pour moi.
D'accord. Merci Mehdi, en tout cas, de nous avoir donné votre point de vue. Jonathan est également avec nous. Il nous appelle Dissinjo. Bonjour Jonathan.
Bonjour à tous.
Jonathan, est-ce que vous êtes d'accord avec le CIO? C'est bien d'interdire les athlètes russes de cérémonie des Jeux Olympiques?
Pas du tout. C'est inadmissible.
D'accord.
C'est même incompréhensible. Comme je disais par message, c'est quand même incroyable qu'on veille en permanence à augmenter les tensions qu'il y a déjà entre la France et la Russie par des petits actes comme celui-là. C'est juste inadmissible. Ces athlètes-là, ils n'ont rien à voir avec les décisions de ces dirigeants russes. On mélange tout. On mélange le sport, on mélange la guerre, les problèmes, les conflits internationaux. Et surtout que les Jeux Olympiques, faut le rappeler, les Olympiades, c'était pour signifier la paix internationale.
Complètement.
C'est vrai.
Voilà. Complètement. Mais de tout temps, il y a eu des pays soit interdits de Jeux Olympiques, soit les pays qui ont décidé de boycotter les Jeux Olympiques.
Tout à fait. Mais c'est pas parce que ça a été fait. C'est un exemple. Et nous, en tant que Français, nous devrions être exemple des Jeux Olympiques.
Ouais, mais c'est le CIO. C'est le CIO qui prend la décision. C'est pas la France, hein.
Bien sûr, mais la France a son mot à dire.
Mais oui, mais tous les pays ont un mot à dire. Le CIO, c'est le Comité international olympique, en fait.
Bien évidemment. Mais une fois de plus, on se met en lumière pour les mauvaises raisons, parce que c'est en France que ça se passe.
Oui, mais ça aurait été pareil, ça avait été en Angleterre. Ça aurait été pareil.
peut-être bien. En attendant, une fois de plus, on pénalise des gens, on pénalise des athlètes aujourd'hui qui n'y sont strictement pour rien. Ce ne sont pas des gens qui vont à la guerre, ce ne sont pas des gens qui vont taper sur les écrivains, ce sont des professionnels du sport.
Mais oui,
comment on peut les mélanger à ces conflits politiques-là?
Attendez, je sais que la situation n'est pas la même, mais en 48, par exemple, vous auriez autorisé les athlètes allemands à faire les Jeux Olympiques?
Alors, un athlète, alors, en 48, bon, j'étais pas né.
En 48, je sais à peu près ce qui s'est passé en 45, vous voyez.
En 48, tous les Allemands étaient pour la guerre, vous pensez?
Ce que je vous dis, c'est que justement, si on prend ce parallèle, on va dire que tous les athlètes allemands n'étaient pas des nazis, mais n'empêche qu'ils n'ont pas participé aux Jeux de 48. À un moment, vous êtes aussi, je suis désolée, mais vous êtes aussi, je veux pas dire responsable de votre pays, mais quelque part, oui. Si la France était en guerre, on aurait aussi des restrictions, nous Français, même si on ne partageait pas la vision du président qui nous amenait à la guerre. Vous voyez ce que je veux dire?
Ce que je trouve très bizarre, c'est que c'est arrivé aussi en 1924, où les pays perdants de la Première Guerre mondiale se sont vus exclure. Et en 48, pareil, on n'a pas...
On n'a pas invité l'Allemagne,
qui n'était pas en train de conquérir le monde en 48, qui était déjà défaite. Donc je trouve ça assez curieux, au lieu de servir des JO pour dire, on s'est tapé sur la gueule, mais maintenant, on rentre dans une phase de paix, on s'est servi des JO comme un instrument de représailles bellicistes. Je trouve ça aberrant.
Et on dit les JO sont symboles de paix, etc. Et symboles de trêve, il n'y a pas eu de JO en 40, ça se saurait. Il n'y a pas eu de JO en 44 non plus. Donc, merci beaucoup en tout cas, Jonathan, d'avoir été avec nous. On termine avec des messages, Rémi.
Allez, j'ai ce message de André qui nous dit « Moi, je ne trouve pas ça choquant que la communauté internationale a pris d'ores et déjà position, et notamment les Nations Unies, à l'égard de ce que mène actuellement la guerre menée par la Russie en Ukraine. Je vous rappelle que l'ONU enquête actuellement sur de multiples crimes de guerre commis par le régime russe et par l'État russe en Ukraine, et je pense que ce ne serait pas responsable que de voir le drapeau russe flotter dans les rues de Paris. »
Alors, les athlètes russes interdisent aux cérémonies des JO, est-ce logique ou est-ce choquant, Rémi?
C'est choquant pour 59% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Donc une large majorité des internautes qui sont d'accord avec vous sur ce plateau. Dans un instant, on se demandera si la langue française est en danger, c'est la semaine de la francophonie, mais on n'a pas l'impression que la langue française se porte si bien que ça. Et puis dans un instant, Anthony Morel va nous parler d'une révolution dans la chirurgie, une révolution grâce au casque, vous savez, Vision Pro d'Apple. On vous explique ça dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Midi 50, c'est l'heure à laquelle chaque jour on parle nouvelle technologie, on parle progrès avec Anthony Morel. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, on parle du futur de la médecine avec une innovation pour la première fois en Europe. Le casque Vision Pro d'Apple a été utilisé lors d'une intervention chirurgicale. La réalité augmentée est donc une petite révolution à venir dans les blocs opératoires.
Absolument. Alors, c'est une première qui a été réalisée en Angleterre, à l'hôpital Cromwell de Londres. Il y a eu d'autres expérimentations un petit peu partout dans le monde et puis ça va se multiplier. Une opération augmentée, on pourrait appeler ça comme ça, en utilisant le Vision Pro. Alors, on en a parlé du Vision Pro, vous vous souvenez, c'est cette espèce de masque de plongée qui permet en fait de projeter dans son champ de vision un certain nombre d'informations numériques. Ça coûte une blinde, 4 500 euros à peu près, enfin plus de 4 000 euros. Forcément, pour les particuliers, c'est un petit peu compliqué. Mais là, dans un bloc opératoire, le potentiel est extraordinaire parce qu'on va pouvoir en fait projeter des informations sur le patient qu'on est en train d'opérer et avoir ces informations quasiment sous forme d'hologramme directement dans son champ de vision. Là, c'était une infirmière qui portait le casque pendant cette opération. Et donc, elle avait dans son champ de vision des écrans avec les constantes vitales du patient, des informations sur son dossier médical, des informations sur la procédure qui se déroule en temps réel, des informations aussi en réalité augmentée pour lui dire à quel moment se saisir de tel instrument et le donner au chirurgien, donc en respectant précisément et scrupuleusement la procédure pour éviter les erreurs médicales et les erreurs de procédure, sachant que l'étape d'après, ça va être le chirurgien lui-même qui va porter le casque. Alors c'est encore un petit peu encombrant, c'est le problème, mais ça va se miniaturiser tout ça. Et là, on pourra avoir, c'est des trucs de fou, une modélisation en réalité augmentée de l'anatomie du patient. Et donc, en fait, on va avoir une sorte, j'allais dire, d'assistant à la conduite. C'est-à-dire qu'en gros, le médecin va voir sous ses yeux des indications qui vont lui dire au millimètre près, là, attention, tu t'approches d'une zone dangereuse.
Et tu peux grossir, en fait.
Tu peux grossir, exactement.
Donc, tu peux mieux voir ce que tu fais.
Voilà, exactement. On va pouvoir aussi, par exemple, un scanner qu'un patient a fait en 2D, on va pouvoir en avoir une modélisation en 3D sous forme d'hologramme devant soi pour avoir une meilleure visualisation et pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut réaliser grâce à ces outils. Là, on parle du Vision Pro d'Apple, hein, mais il y a d'autres outils du même genre qui sont en train de voir le jour.
Est-ce que ça pourrait permettre aussi à terme, Anthony, d'opérer à distance ?
Alors, potentiellement, oui. Il y a déjà des expérimentations avec des casques de réalité virtuelle, cette fois-ci, où le médecin peut être, je dis n'importe quoi, à New York, et le patient se trouve à Paris, et le médecin a un casque sur la tête. À Paris, vous avez un robot, il y a de plus en plus de robots chirurgicaux, et en fait, on va pouvoir voir par les yeux du robot à distance, et puis le piloter un peu comme dans un jeu vidéo, avec un niveau de précision qui est absolument démentiel. Donc ça, ce sera bientôt possible. Il y a déjà des expérimentations.
Je préférerais que quelqu'un reste à côté de moi quand même.
Il y a évidemment toujours dans la salle d'opération des infirmiers, des infirmières, du personnel soignant, au cas où il se passerait un truc, il y a un médecin qui peut reprendre la main en cas d'urgence. Et vous imaginez bien que tout ça, effectivement, mieux avoir une bonne connexion. Il ne faut pas que ça coupe en plein milieu, ce serait un petit peu dommage. Là où ça va être très, très intéressant aussi, c'est qu'on peut se servir de ces casques, comme le Vision Pro, pour voir à distance par les yeux du chirurgien. Donc vous imaginez, il y a un chirurgien qui est dans le bloc opératoire, d'accord, il est en train d'opérer. Et puis à l'autre bout du monde, vous avez un autre chirurgien qui peut être le spécialiste, voyez, de l'opération qui est réalisée.
Et un chirurgien bof.
T'as le mec qui charcute et puis t'as le bon qui est à l'autre bout du monde et qui donne les conseils.
C'est comme le boucher avec son commis.
Voilà, c'est ça. Non, mais attendez, dans le monde médical, ça se fait beaucoup.
Il y en a un qui tient la caisse et l'autre qui découpe la viande. C'est formidable.
Un peu plus à droite, là. Attention, Roger, là tu dévis. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même. Mais si, parce qu'il y a des fois, il y a des médecins qui sont le spécialiste d'un truc en particulier. Donc c'est pas mal qu'ils puissent avoir.
Il
peut pas être partout, c'est compliqué, évidemment. Il peut pas être à Singapour en même temps qu'il est à Rio ou à Paris, quoi. C'est compliqué.
Bon. Et alors, est-ce qu'on pourrait faire comme les pilotes de chasse, ils s'entraînent dans des simulateurs, en fait. Et est-ce que là, il y aura des simulations de chirurgie?
Alors, exactement. C'est une très bonne analogie parce que c'est exactement ce qui va se passer dans la formation médicale, la formation chirurgicale. C'est-à-dire utiliser ce genre d'outils pour les étudiants chirurgiens qui puissent avoir un patient virtuel devant eux. Alors, c'est pas la même chose, évidemment, mais on peut s'entraîner comme ça. Un peu comme les pilotes qui font des heures et des heures dans des simulateurs de vol. Et j'allais dire, même dans le cadre de la formation professionnelle pour des chirurgiens qui sont déjà confirmés, on va pouvoir s'entraîner. Par exemple, je dois opérer une tumeur d'un patient demain. Je vais pouvoir modéliser en 3D la tumeur, mais vraiment celle de mon patient, pas un truc générique. Et je vais pouvoir m'entraîner très précisément, reproduire le geste encore et encore pour que le jour où je suis sur le vrai patient, ce soit le plus parfait possible et qu'on évite au maximum les erreurs médicales. Donc là aussi, encore une fois, tout l'enjeu, c'est d'éviter au maximum les erreurs.
Je viens d'imaginer un jeu vidéo extraordinaire. Jeu vidéo chirurgien. Un docteur Maboule, mais en jeu vidéo.
Ah, c'est pas mal.
Je suis comme une dingue.
Vous qui êtes déjà fan de
là,
docteur Mario.
Vous mettez un organe, genre l'œil, la prostate, le cœur, et vous êtes vous-même chirurgien virtuel. Un peu le Minecraft.
Le problème, c'est quand on touche.
Extraordinaire. Allez, on le fait, on devient
mineur. C'est problématique.
Oui, et tu peux pas avoir des parties gratuites. Tu vas recommencer. En fait, tu peux changer de passion.
Ah, c'est vrai.
Non, mais je vous dis, ça cartonnerait, Anthony. Merci beaucoup, Anthony. On parle de quoi là? Non, vous n'êtes pas là lundi. Vous venez de me le dire, ne me dis pas de ce qu'on fait lundi.
Je vois que vous écoutez ce que.
J'ai écouté, mais je suis sur ce nouveau jeu vidéo.
C'est pour ça.
Qui, à mon avis, va me prendre tout mon week-end. Cette idée est absolument dingue. Merci beaucoup, Anthony. Et vous pouvez retrouver cette chronique, bien sûr, en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de télé. Chargement dans un instant. Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera de la semaine de la francophonie. C'est cette semaine. Mais la langue française est-elle en danger? On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'anglicismes qui envahissent nos quotidiens. On en parle avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.